Mémoire vive,
présenté par Antoine Mercier
et préparé par Rachel Rimer, une émission de RCJ avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Bonjour, nous parlons ce dimanche d'un livre à tous égards exceptionnel. C'est un monument de près de 1000 pages, chronique clandestine de la persécution puis de l'extermination pendant la guerre de près de 400 000 juifs, roumains et ukrainiens. Un des rares documents de premier plan à avoir été écrit pendant les événements sur un chapitre encore mal connu de la Shoah. Son titre, Cartea Neagra, le livre noir de la destruction des juifs de Roumanie entre 40 et 44. Son auteur, c'est un jeune avocat juif de Bucarest, 36 ans à l'époque, Matatia Scarp, qui s'est donc lancé dans cette incroyable entreprise dès juin 40. Il était convaincu d'assister alors au début de la fin du judaïsme européen. La Roumanie n'a pas abrité sur son sol ni chambre à gaz, ni four crématoire, écrivait-il ainsi juste après la guerre. Matatia Scarp, elle n'a pas non plus procédé à l'exploitation industrielle des dents, des cheveux, de la graisse des victimes, ayant adopté des méthodes de tuerie plus classiques, celles pratiquées depuis la nuit des temps, le fascisme roumain. C'est cependant singularisé dans l'extermination des juifs par un certain nombre de techniques originales, je cite toujours, des hommes battus à mort ou asphyxiés dans des wagons plombés, d'autres vendus au beau milieu des colonnes des marches de la mort pour être tués et leurs vêtements vendus au plus offrant, d'autres littéralement coupés en morceaux et dont le sang servait à graisser les roues des charrettes. Fin de citation. Alors ce livre fut publié une première fois à Bucarest juste après la guerre. Il fut ensuite mis à l'index par le régime communiste et il sort aujourd'hui, il sort de l'oubli grâce au travail tout à fait remarquable d'une historienne, Alexandra Leniel-Lavastine, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Europe de l'Est, qui l'a donc traduit et annoté et il vient d'être publié aux éditions de Noël avec le concours de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alexandra Leniel-Lavastine, bonjour.
Bonjour.
Merci donc d'avoir accepté notre invitation. On va se replacer tout de suite dans l'époque. Nous sommes donc à Bucarest en 1940. Comment notre auteur, qui est né dans une famille juive, une bourgeoisie juive assimilée, son père Horia Karp a d'ailleurs été l'une des grandes figures de la vie intellectuelle roumaine dans l'entre-deux-guerres, comment en est-il venu à se faire ainsi l'historien, le chroniqueur, l'archiviste des persécutions subies par les juifs de Roumanie?
Oui, eh bien, peut-être d'abord parce qu'il existe parfois des hommes exceptionnels dans l'histoire, ensuite parce que si on replace les choses dans leur contexte, donc nous sommes à l'été 40, c'est une catastrophe nationale, enfin du moins vécue comme telle par les Roumains, puisque le pays se trouve amputé des deux tiers de son territoire, dont la Bessarabie et la Bucovine que les Roumains doivent rendre aux Soviétiques, ce qui sera déjà l'occasion de premiers massacres lorsque les troupes roumaines vont se retirer. Et puis, septembre 40, le maréchal Ion Antonescu, dit le Conducator, prend le pouvoir avec la principale organisation fasciste roumaine de l'époque, la Garde de Fer. Et c'est donc dans ce contexte de persécution anti-juive et d'une législation extrêmement dure que Matatia Scarp se dit que ce pourrait bien être en effet le début de la fin du judaïsme européen, en tout cas du judaïsme roumain, et qu'il se met à tenir cette chronique presque au jour le jour des persécutions, puis des massacres.
Alors il semble avoir été d'une lucidité tout à fait extraordinaire, mais comme vous dites, il existe de temps en temps des hommes extraordinaires. L'effet étant à venir tout de même, est-ce qu'il était impossible, avec cette lucidité-là, cette vision, est-ce qu'il n'était pas possible de tenter de sauver davantage de victimes plutôt que de vouloir tenir ce registre de leur extermination?
Oui, très bonne question. Ce qu'il y a d'extrêmement intéressant et d'exceptionnel dans le cas de Matatia Scarp, c'est qu'en fait, il était à la fois une victime, un chroniqueur de ces événements, puisque le livre noir en est sorti, mais aussi un acteur. Puisqu'en fait, la Roumanie a ceci de particulier dans le contexte européen, que dans un premier temps, l'organisation communautaire traditionnelle va être tolérée jusqu'à fin 41. Elle était dirigée par Wilhelm Fildermann et secondée par Karp, donc Fildermann était aussi un homme tout à fait remarquable, et elle ne sera remplacée par Judenrat aux ordres du pouvoir que début 42, si bien que pendant plus d'un an, eh bien Fildermann et Karp vont jouer à fond la carte de la légalité en envoyant mémorandum sur mémorandum aux autorités roumaines, en essayant de contacter les grandes organisations juives à l'étranger, en essayant d'être reçu en audience auprès même du maréchal Antonescu, etc. Donc en fait, Matatia Scarp fait deux choses. Il tient la chronique des événements grâce aussi aux relations qu'il pouvait avoir au niveau local par les antennes de la communauté juive. Donc il fait remonter beaucoup d'informations et éventuellement il envoie des enquêteurs sur le terrain. D'autre part, il joue simultanément la carte de la légalité et va se démener beaucoup jusqu'en 44 pour essayer notamment vers la fin de sauver de rapatrier les orphelins, etc.
Alors, peut-être plus précisément, comment on peut comprendre qu'il ait pu rassembler autant de documents, d'écrits et de photographies aussi, parce que c'est une des forces du livre, toutes ces photographies inédites.
Oui, alors en fait, pour le comprendre, il faut bien voir que Matthias Karp vivait à Bucarest, qu'à Bucarest et dans ce qu'on appelle le vieux royaume en général, c'est-à-dire les provinces historiques de la Roumanie, hein, l'ancienne Roumanie, les Juifs n'étaient pas mis en ghetto. Ils étaient astreints au travail forcé, leurs déplacements évidemment limités, spoliés, etc., mais pas de ghetto, si bien que Karp, qui risquait cependant d'être arrêté d'un jour sur l'autre, pour peu qu'on trouve les documents qu'il amassait chez lui, Karp pouvait quand même relativement travailler avec une seule collaboratrice, sa propre femme. Il ne voulait mouiller personne, et à un moment donné, le problème s'est même posé de savoir où ils pourraient cacher leurs documents, et ils ont préféré garder toutes ces documentations chez eux, précisément pour ne compromettre personne. D'ailleurs, Matthias Karp lui-même sera arrêté et torturé 3 jours durant, pendant le pogrom de Bucarest fin janvier 41, où environ 120 juifs vont trouver la mort dans des conditions absolument atroces, et Matthias Karp a failli à ce moment-là, enfin, l'entreprise du Livre Noir a bien failli tourner court. Voilà. Et puis, pour les photographies, c'est une bonne question aussi, puisqu'il y en a beaucoup dans le livre. Matthias Karp, et ça c'est sa femme qui le raconte dans un document qu'elle a déposé à Yad Vashem, avait réussi à soudoyer un officier allemand, probablement de la Wehrmacht, en poste à Bucarest, à qui il achetait ses photos, et ensuite il essayait donc d'en établir l'authenticité.
Alors on en vient au fond. La lecture de ce livre provoque un effet vraiment de sidération, tant les situations sont diverses, le processus d'extermination chaotique comme ça a priori. On a le sentiment qu'à tout moment surgissent comme ça des occasions de tuer des juifs, un par un ou par milliers. C'est un déchaînement, disons un grouillement de haine qui semble saisir tout un peuple sans que les Allemands n'aient vraiment besoin de s'en mêler. On considère à juste titre la Shoah comme une entreprise d'extermination préméditée, organisée. Eh bien en Roumanie, on a l'impression que la Shoah se déroule de manière artisanale, si on peut dire, avec un résultat que l'on sait, c'est-à-dire que ce sont la moitié des 750 000 juifs que comptait le pays avant-guerre, c'était la troisième communauté juive d'Europe, qui ont été donc exterminés, la moitié de cette communauté. En quoi ce qui s'est donc passé là en Roumanie, qui est assez spécifique, pendant la guerre, peut modifier notre vision globale de la Shoah?
Je crois qu'elle la modifie dans la mesure où on a effectivement affaire à un processus de destruction donc, qui commence à Iași, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, et qui se poursuit dans les deux provinces de Bessarabie et de Bukovine, donc Bessarabie, capitale Kishinev, Bukovine, Tchernovitz, des noms qui nous sont bien connus. Et donc, les massacres commencent au moment où, à l'été 41, les Roumains, alliés du Reich, reconquièrent ces deux provinces, et dans le processus de reconquête, eh bien, massacrent la quasi-totalité de la population juive de ces régions, dans les villes comme dans les villages, avant de rassembler les survivants dans des camps de transit et de les déportés au-delà du fleuve Dniestre, en Transnistrie, qui était la bande du territoire ukrainien qu'Hitler avait attribué à son allié Antonescu, donc qui est sous occupation roumaine, et où les survivants vont être déportés et à nouveau massacrés dans des conditions épouvantables. Donc il y a en effet une sorte de chaos, de désorganisation, de sadisme aussi. Raoul Hilberg le dit lui-même, on trouve dans les livres noirs de Karp des scènes dont on ne trouve aucun équivalent ailleurs dans l'Europe occupée. Des massacres à l'arme blanche, parfois la population locale aussi qui se charge de massacrer la moitié juive de son village avant même que les troupes roumaines arrivent, et vous l'avez dit, des rapports des Einsatzgruppen même, c'est pas peu dire, tout à fait effrayés par la méthode roumaine, notamment le fait que les Roumains n'enterraient pas les corps, que les épidémies risquaient se diffuser, et proprement horrifiés par la façon dont les troupes roumaines effectivement procédaient dans ces massacres.
Parce qu'on a l'impression là vraiment qu'on a affaire à une Shoah qui n'avait pas besoin forcément d'être extrêmement organisé, mais qu'il suffisait de souffler un peu sur les braises. Bon, il y avait la propagande, évidemment, qui faisait son effet. On souffle un peu sur les braises, et puis l'antisémitisme fonctionne tout seul et va jusqu'au massacre.
Absolument. Et ce, de la part des troupes roumaines, hein, puisque ce sont elles les principes. Donc, c'est les principaux exécuteurs sont l'armée roumaine, mais aussi la police, la gendarmerie roumaine. C'est très important, les unités de gendarmerie qui étaient un peu l'équivalent des unités de tuerie mobile allemandes. Donc, d'un côté, disons, les militaires, en effet, empoisonnés, comme le dit Karp, par la propagande, propagande antisémite qui en Roumanie était extrêmement virulente depuis plusieurs décennies déjà, et notamment dans les années 30. Hein, on avait déjà un antisémitisme d'État depuis 38. Et puis d'autre part, la population locale également chauffée à blanc et avec ce stéréotype que tout juif était communiste, que les juifs avaient soutenu les bolcheviks au moment où les soviétiques avaient réoccupé les provinces et que par conséquent, la vengeance, l'heure de la vengeance avait sonné. Ce qu'il y a aussi de très spécial, c'est ensuite, donc les Roumains vont massacrer à peu près 150 000 juifs en Bessarabie et Bukovine et en déporter environ aussi 150 000, ceux qui avaient survécu, en Transnistrie, cette province qu'on attribue souvent au Reich Commissariat, autrement dit à l'Ukraine sous occupation allemande, mais qui en fait était sous souveraineté roumaine de 41 à 44, et où nous allons avoir des marches de la mort à n'en plus finir, souvent en zigzag, hein, le but était de faire le maximum de victimes possible. Les ordres spécifiaient d'ailleurs que l'on creuse des tranchées tous les 10 kilomètres pour exécuter ce qu'ils appellent dans les documents administratifs les traînards, autrement dit souvent les vieillards, les femmes et les enfants. On aura beaucoup de ghettos en Transnistrie, mais aussi des camps de la mort épouvantables, par exemple le camp de Bogdanovka, où à l'automne 41, 70 000 juifs d'Odessa et de Bessarabie vont être parqués dans des conditions absolument dantesques, dans d'immenses porcheries en fait de l'ère soviétique, hein, c'était des kolkhozes, donc c'est pas la représentation qu'on a habituellement d'un camp, une immense porcherie avec une cinquantaine d'étables et 70 000 personnes enfermées là, lesquelles seront pour une bonne part, pour 48 000 d'entre eux en tout cas, massacrées entre la fin décembre et le début janvier 42 dans un ravin qui se situait à un kilomètre environ du camp. C'est un massacre plus important d'ailleurs que celui de Babillard, enfin numériquement, qui a eu lieu en septembre 41, mais dont personne quasiment n'a jamais entendu parler.
Alors dans ces innombrables récits, je rappelle que c'est vraiment une des forces du livre que tout ait été ainsi répertorié, noté, se détache aussi cette succession de pogroms. Il y a celui de Bucarest en janvier 41, surtout celui de Iași, donc c'est la capitale de la Moldavie, en juin 41, qui fit entre là 13 000 et 14 000 morts. C'est un mélange de cruauté spontanée aussi et d'organisation bureaucratique mélangée, tuerie qui précéda donc les grands massacres effectués en Ukraine par les nazis et qui eut lieu donc au sein même de la Roumanie, organisée par les autorités légales, d'une ville dont près de la moitié des habitants étaient juifs. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être rappeler le contexte de Iași, parce que c'est un peu l'un des premiers de cette ampleur.
Absolument. Donc le pogrom de Iași a lieu à la fin juin 41 et c'est un événement en quelque sorte inaugural ou qui va servir de prologue en quelque sorte à ce qui va venir ensuite, dans la mesure où il s'agit du premier massacre, en tout cas à cette échelle, hein, puisqu'il va faire 14 000 morts en quelques jours dans une grande ville universitaire. Et donc il marque un peu le coup d'envoi, hein, de ce que Raoul Hilberg appelle aussi les grands nettoyages meurtriers qui vont suivre. Donc en ce sens, il a une portée universelle et il a été par ailleurs immortalisé par le récit qu'en fait Malaparte dans Caput qui s'intitule Les rats de Iași. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on a en effet un mélange, et Sacarp l'avait déjà soupçonné, il en a l'intuition dans le livre, mais on le sait très précisément depuis les années 90, depuis que les archives sont ouvertes et qu'on y a retrouvé des documents. Il y a une préméditation, une orchestration, une préparation extrêmement minutieuse du pogrom avec les provocations habituelles, l'idée que ce sont les juifs qui indiquent aux pilotes soviétiques les cibles à bombarder, etc. Et puis les autorités qui commencent à ordonner des persécutions dans ce qu'on appelait là-bas les maisons juives, hein, les habitants de Iași qui marquent des croix sur les façades de leur propre maison pour bien signaler que c'est pas là qu'il faut chercher, donc massacre dans les rues, épouvantable, et ensuite dans la cour de la préfecture de Iași où il y aura un véritable bain de sang, après quoi les survivants vont être embarqués dans des trains oui, fous.
Ça c'est une histoire effectivement complètement folle, effectivement.
Oui, et c'est aussi en quelque sorte une innovation technique roumaine, hein, entre guillemets, que ces trains qui vont parcourir 20 kilomètres en 3 jours dans une chaleur suffocante. Les juifs qui sont détenus dans les wagons n'ont rien à boire, rien à manger et environ les deux tiers, c'est-à-dire entre 6 et 8 000 personnes vont périr dans ces trains d'où les corps seront déchargés à chaque arrêt par la population locale réquisitionnée à cet effet. Donc là, on a en effet un mélange de pure violence avec participation aussi très importante des soldats mais de la population locale également et un mélange aussi de préméditation extrêmement minutieuse.
Est-ce qu'il y a des raisons particulières à la Roumanie qui pourraient expliquer que la Shoah ait pris cette forme dans ce pays, à votre avis ?
C'est difficile d'y répondre très rapidement. Il y a une longue tradition antisémite dans ce pays. Il faut rappeler aussi que les Juifs roumains ont été les derniers émancipés d'Europe. On les appelait les derniers esclaves d'Europe. Qu'ils n'obtiendront leurs droits civiques et politiques qu'à la suite des pressions occidentales après le traité de Versailles, donc juste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est déjà... Enfin, on a déjà tout un background ici important. Et puis la montée du nationalisme et de l'antisémitisme dans les années 20 et 30, avec cette particularité aussi dans le cas roumain que beaucoup d'intellectuels, et peut-être même parmi les plus brillants, des intellectuels comme Émile Cioran ou Mircea Eliade, vont eux-mêmes contribuer très activement à l'élaboration doctrinale de la doctrine antisémite de la garde de fer.
Cioran, Eliade, alors ces deux mots vous prononcez, vous avez écrit un livre notamment sur ces intellectuels-là. Bon, un tout petit peu, parce qu'on va passer peut-être à la mémoire de ces événements, des personnalités, des écrivains comme ça. Finalement, est-ce qu'ils ont vraiment reconnu qu'ils s'étaient trompés ? Est-ce qu'ils sont revenus, après-guerre, à des meilleurs sentiments ?
Alors, dans le cas de Mircea Eliade, jamais. Le cas d'Émile Cioran est plus compliqué et plus délicat. Néanmoins, je ne suis pas certaine qu'il ait vraiment pris la mesure de la gravité de son engagement, même s'il a écrit plus tard des textes où, en quelque sorte, il inverse les signes. Tous les stéréotypes négatifs qu'il attribue aux Juifs dans les années 30 deviennent, en quelque sorte, des signes positifs, c'est-à-dire des stéréotypes positifs, mais toujours des stéréotypes. Ce qui me laisse penser que les regrets n'étaient peut-être pas, ou en tout cas le travail sur soi accompli par Cioran n'était peut-être pas véritablement à la hauteur de son engagement.
Teshuvah incomplète, on va dire. Un mot sur la mémoire des événements encore, parce que la Shoah va rester longtemps après-guerre en Roumanie, comme partout d'ailleurs dans le bloc soviétique, un sujet tabou. Dans les années 70-80, le régime Ceausescu va même encourager les écrits révisionnistes tendant à réhabiliter l'honneur de l'armée roumaine, rejeter aussi la responsabilité du crime sur les seuls Allemands. Or, on a bien vu, d'après ce que vous nous avez dit, et c'est très clair dans le livre, que finalement, les Allemands n'étaient là que comme des accompagnateurs, on va dire, et peut-être même comme ce que vous disiez tout à l'heure des Einsatzgruppen, qui critiquaient la manière dont tout ça se passait. Alors, ça explique en partie que cette histoire, évidemment, est restée très longtemps dans l'ombre et ne ressort que très récemment. Vous pouvez nous parler de cette période d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, concernant la mémoire de cette Shoah ?
Oui, alors en effet, vous l'avez très bien dit, il y a trois temps. En gros, premier temps, le sujet est tabou en Roumanie comme partout à l'Est, puisque les victimes juives de la Seconde Guerre mondiale se confondent avec l'ensemble des victimes et de la lutte héroïque contre le fascisme, etc. Ensuite, donc tabou. Ensuite, déjà, historiographie révisionniste dans les années 80 sous Ceausescu, ça c'est un peu singulier dans le cas de la Roumanie. On réhabilite la glorieuse armée roumaine, on réhabilite aussi en partie le maréchal Antonescu, et on discute les Roumains tout à fait innocents. Et puis ce discours en fait va perdurer après 89 et même reprendre en quelque sorte la vigueur. Le livre noir de Matathias Karp par exemple va être réédité en Roumanie en 96 dans l'indifférence la plus générale. Et l'idée globalement en Roumanie aujourd'hui, dans la société disons, c'est que en effet les Roumains ne sont pas concernés. D'ailleurs un sondage extrêmement intéressant montre que 6% des Roumains se sentent concernés par le sujet.
De quand ce sondage ?
De 2007. Se sentent concernés par le sujet. Plus de la moitié des Roumains pensent qu'Antonescu était un grand patriote, qu'il serait urgent de le réhabiliter et qu'il n'y a pas eu de Shoah en Roumanie. C'est tout à fait extraordinaire.
Aujourd'hui, donc, quand on parle d'aujourd'hui, il faut bien souligner.
Voilà, c'est sommes en 2007. Ouais. Cela dit, il y a eu des progrès de fait au sommet de l'État qui a bien voulu reconnaître la responsabilité régime Antonescu dans le massacre de Juifs, mais là encore un peu sous pression, c'est-à-dire après la création d'une commission internationale d'études sur l'Holocauste en Roumanie, dite commission Elie Wiesel, où un certain nombre d'historiens internationaux ont siégé. Le rapport remis par cette commission est d'ailleurs excellent, très juste. Et du coup, le président roumain et le Premier ministre ont été obligés de reconnaître les responsabilités de l'État. Mais je dirais que pour l'heure, ça ne descend pas vraiment dans la société, pas même vraiment d'ailleurs dans les milieux intellectuels, ou encore très peu.
Alors, le livre est traduit donc par vous. Est-ce qu'il ressort en Roumanie ? On sait qu'il y a beaucoup de francophones. Pourquoi ça serait une occasion de... On peut le trouver dans les librairies à Bucarest ?
Alors, pour l'instant, c'est très étrange. La publication du livre à Paris n'a pas suscité de réaction en Roumanie, pas même de réaction de la part de l'ambassade roumaine à Paris, qui avait pourtant promis, n'est-ce pas, d'organiser un débat sur ce sujet tout à fait capital. Donc, pour l'heure, pas de réaction. Maintenant, il n'est pas impossible qu'un éditeur ait envie de le republier, avec le texte roumain, bien sûr, mais aussi tout l'appareil critique qui existe dans l'édition française, les notes, les présentations, les cartes, les photos. Et bien, ça serait une, une excellente nouvelle, en tout cas.
Alors, vous avez des échos, quand même, de votre travail en Roumanie? Vous avez eu des observations qui vous ont été faites?
Oui, écoutez, assez souvent, je dois dire que les Roumains, hormis les historiens de l'Institut Elie Wiesel et quelques autres intellectuels et journalistes, eh bien, ne sont pas tout à fait prêts encore à faire face à ce passé-là. Et mon travail, que ce soit sur le Livre Noir ou sur les intellectuels roumains, a un petit peu de mal encore à être digéré dans ce pays. C'est bien dommage. D'ailleurs, ce serait en premier lieu aux historiens roumains de faire ce travail de mémoire, et il est regrettable qu'il soit encore aussi embryonnaire quasiment 20 ans après la chute du communisme.
Alors justement, travail historique sur cette période-là, est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout les choses se mettent en place, d'autres choses vont être publiées?
Oui, sans doute, puisqu'il y a une jeune génération d'historiens maintenant qui entre en scène, que toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale en Roumanie ont été microfilmées et rapatriées au musée de l'Holocauste à Washington. On a des millions et des millions de pages qui sont tout à fait faciles d'accès et où l'on peut, sur lesquels on peut travailler dans des conditions idéales, donc à Washington. Et puis, il y a tout de même un certain nombre d'universitaires en Israël, aux États-Unis et ailleurs qui travaillent sur cette question. Il y a beaucoup de travaux universitaires, mais jusqu'à présent, on a l'impression que cette Shoah-là, la roumaine, n'a pas encore passé vraiment le cap du grand public, mais on peut espérer en tout cas que le Livre Noir de Matathias Karp y contribuera.
Alors on termine avec une question un peu d'actualité, peut-être plus générale. On va avoir des élections pour le Parlement européen dans toute l'Union. Et cette question du rapport de l'Europe à son passé avec les Juifs, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est encore posée, finalement, globalement, pour l'Europe?
Je crois qu'elle se pose sur le fond d'une manière tout à fait essentielle, et que si justement l'identité européenne peut avoir un sens, c'est notamment précisément dans cet esprit d'autocritique, dans cet esprit de lucidité et de courage, dans la façon dont les différents pays européens, puisque les Roumains ne sont pas les seuls, à devoir assumer ce chapitre extrêmement noir de leur passé national. Et c'est peut-être ça qui pourrait caractériser l'identité européenne de demain. Je ne suis pas sûre qu'on y soit déjà, mais en tout cas, on peut l'espérer dans les années à venir. Et d'ailleurs, un certain nombre d'historiens hongrois, polonais ou tchèques montrent aussi l'exemple, et sont parfois d'ailleurs extrêmement étonnés par le discours tenu par les historiens ou les intellectuels français qui parlent de cette sorte de ras-le-bol de la mémoire, de trop-plein de mémoire, qu'on en a assez parlé, etc. Et eux-mêmes nous disent, mais vous ne vous rendez pas compte, vous rendez notre combat d'autant plus difficile à tenir ce discours à Paris ou à Londres ou à Berlin. Enfin,
Alexandra Léniel-Lavastine, vous continuez à travailler sur le sujet?
Oui, bien sûr, c'est un sujet dont il est difficile de se détacher, forcément.
Vous avez quel genre de travaux, quel genre d'exploration, si on peut en parler?
Écoutez, pour le moment, c'est un petit peu difficile d'en parler plus avant. Je travaille beaucoup sur la Transnistrie, donc sur la partie de l'Ukraine occupée par les Roumains, et notamment en faisant de l'histoire orale auprès des derniers témoins de ces massacres sur place.
Merci beaucoup, Alexandra Léniel-Lavastine. Donc, je rappelle le titre du livre que vous avez traduit, dont vous venez de diriger l'édition Cartea Neagra, Matathias Karp, le livre noir de la destruction des Juifs de Roumanie. C'est publié aux éditions de Noël, avec donc le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mémoire vive.